Chapitre 18. Au milieu de la route de Valence à F, c'est-à-dire à 10 lieues de Durental, il y avait une petite maison qui était depuis longtemps abandonnée, à cause du péril qu'il y avait à l'habiter. Mais depuis un mois, les voyageurs la revoyaient peinte à neuf, bien réparée, et une enseigne qui portait « À la jolie hôtesse » invitait à s'arrêter. Les contrevents étaient verts, les fenêtres du bas bien grillées par de bons barreaux de fer. Enfin, tout indiquait l'aisance, et comme cette maison était située à moitié chemin de Valence à F, la nouvelle hôtesse devait faire une fortune, tout aussi brillante que ses prédécesseurs, car tous les voyageurs s'y arrêtaient. Mais il faut dire aussi que tous les aubergistes y avaient été successivement assassinés, et que les voleurs leur prenaient leur fortune aussitôt qu'elle valait la peine d'être prise. Il fallait donc que celle-là eût fait un accord avec les malfaiteurs et leur payât une rente. C'est ce que vous verrez. En ce moment, une jeune fille d'environ 18 ans, mise avec toute la recherche que comporte le joli costume de ce charmant pays, attendait sur la porte de l'auberge et regardait sur la route avec une curiosité plus forte qu'à l'ordinaire. Car elle était curieuse de son naturel, défaut qu'annonçait un charmant nez retroussé, des yeux qui voyaient en côté, de petites oreilles, jolies comme les amours, et qui devaient entendre à travers une porte de 15 lignes d'épaisseur. Hélas, il n'y a que les curieuses qui se perdent. « Il ne viendra pas, » dit-elle. Et, abandonnant son poste avec un peu d'humeur, elle vint se rasseoir dans un joli comptoir en regardant d'un air indifférent les gens qui dînaient. « Mademoiselle, » dit l'un d'eux, « vous ne craignez donc rien dans cette maison si voisine de la forêt et dans laquelle il est arrivé tant de malheurs ?»« Oh, » dit-elle, « j'ai des protecteurs. Il y a ici, tout auprès, un garde forestier qui, au premier coup de cloche, arriverait. Et puis je n'ai jamais d'argent ici. » D'ailleurs, on m'a dit que je n'avais rien à craindre. Ensuite, nous sommes du monde, ici. J'ai une servante et un garçon. » Comme elle achevait ces mots, elle entendit au loin le bruit du galop d'un cheval. « C'est lui ! C'est lui ! » s'écria-t-elle. Et elle s'échappa en courant de toutes ses forces, sans s'inquiéter des voyageurs qui s'en allèrent sans payer. Elle aurait, en ce moment, laissé prendre toute sa fortune. Elle accourut sur la grande route au devant du cavalier. « Ah, te voilà donc enfin! Je t'ai attendu un jour, 2 jours, 2 siècles !» Le cheval s'arrêta, elle le flatta de la main, le caressa, l'embrassa et lui dit « Toi, ton orge est préparée. Elle est vannée, criblée et l'avoine aussi. Bonjour, toi !» Et elle embrassa avec toute la ferveur de l'amour le cavalier qui était descendu. Il y avait dans ses mouvements, dans son parler, dans toute sa personne, une vivacité, un charme que rien ne peut rendre. Vernier, car c'était lui, passa la bride de son cheval autour de son bras et, soulevant doucement Jeanneton, la jolie hôtesse, il la serra contre son cœur et lui baisa le front. « Bonjour, petite !» Et il sourit en la caressant de la main. « Viens donc vite, » dit-elle en le tirant par l'habit. « Viens, je t'ai préparé un joli dîner dans la chambre en haut. »« Quel cœur !» s'écria Vernier en entrant dans cette modeste auberge. Cette maison n'avait en bas qu'une vaste salle et une cuisine, au bout de laquelle était une chambre à coucher. Dans la grande salle, il y avait au plancher d'en haut une vaste trappe. Elle servait à monter dans le grenier qui se trouvait au-dessus. Et ce, par le moyen de l'escalier le plus simple que les ingénieurs aient jamais inventé, une échelle. Mais au-dessus de la cuisine et de la chambre à coucher de la cuisinière était un autre grenier que Vernier avait fait lambrisser et arranger de la manière la plus fraîche et la plus gentille. On y montait par un petit escalier qui donnait dans la cuisine. C'était là la chambre où Jeanneton avait préparé le repas et tout le reste. Lorsque Vernier y fut, elle le plaça dans un fauteuil antique et s'assit sur ses genoux. Elle l'embrassa, le regarda, mais tout à coup se leva et redescendit. Elle fut conduire elle-même le beau cheval dans l'écurie et l'arrangea de manière à ce que rien ne lui manquât. « Il aurait été joli que ce fût Marie qui fît cela, » dit-elle en sortant de l'écurie. Elle remonta avec la promptitude de l'écureuil et revint s'asseoir sur les genoux de Vernier. « C'est une chose, » dit-elle. « Mon pauvre bijou est mort, ce pauvre animal. C'est à lui que je dois ton amour. Il a bien souffert. Y avait-il un chevreau au monde plus joli que lui ? Je n'aime pas qu'il soit mort. Cela ne me dit rien de bon. Comme tu me regardes !»«
Es-tu folle ? » dit-il.
« Tu l'as enterré, n'est-ce pas ?»«
Oui, dans la cave, sous la salle. Je n'aime pas cet endroit-là. »
« J'y mourrai peut-être, » dit Vernier en riant.
« Et toi aussi, oh femme !»«
Parlons d'autre chose, » reprit-elle. « Je n'aime pas ton rire. Voyons, mais dis-moi, comment te trouves-tu dans cette chambre si simple en quittant les beaux appartements de Durental ?»«
Très bien, ma pauvre petite. »
« Comment, pauvre ? Je suis la plus riche de toute la terre. J'ai ton cœur, n'est-ce pas que je l'ai ? Qu'il est à moi ? » ?»«
Oui, petite, faisant tout ce que tu voudras, car tu as tout ce que le hasard a mis d'amour chez lui. Je ne peux rien donner au-delà. Je suis brusque, bourru, aimant le tapage et la mort. Mais à tes côtés, je n'aime que la paix et la tranquillité, la joie et les douceurs.
« Quand les impératrices auraient 30 000 lieues de terre à gouverner, » s'écria Jeanneton, « elles n'auraient pas encore la 10e partie de mon bonheur. Mais embrasse-moi donc, mon cher protecteur, et alors je serai dans les cieux. »
« Je ne sais comment j'ai fait pour t'aimer, » dit Vernier. « J'ai toujours porté malheur à toutes celles que j'ai aimées. En Amérique, on a tué Jenny. À Saint-Domingue, on a brûlé Maya. « Que t'arrivera-t-il à toi ?»«
Du bonheur. »«
Tu ne sais pas, » dit Vernier, « que nous courons des dangers, tout riches que nous sommes. »«
Et lesquels ?»«
Mais rien que d'être envoyé dans l'autre monde. »«
Sainte Vierge, que me dis-tu là ?»«
C'est la vérité. »«
Oh, tu ris, ce n'est rien. »«
Mais si cela était ?»«
Si cela était, je mourrais avec toi. »« Allons, viens te mettre à table. » « Mangeons comme l'autre jour avec la même assiette, la même fourchette et buvons au même verre. » Elle l'entraîna et lui prodigua 1000 caresses pendant le repas. Puis, folle comme on a dû le voir, elle prenait une cuillère et lui barbouillait le visage avec de la crème, lui tirait les cheveux, jouait avec les pistolets qu'il portait toujours sur lui, l'embrassait sur les yeux et tâchait de tellement le presser sur son cœur qu'il y resta comme emprunt, véritablement. On pouvait déployer un amour plus mystique et plus religieux, mais rien n'était si ardent et si tendre que le cœur de cette jeune fille. Elle aimait sans seulement s'inquiéter des hommes, de leurs lois et du ciel. À peine savait-elle le nom de l'être qu'elle aimait. Elle ne voyait que lui. Les biens, les honneurs, les richesses, rien. Rien ici-bas ne lui paraissait valoir une caresse, un regard, un sourire, une parole. On voit qu'il en était dans cette obscure auberge comme dans le magnifique château de Durental, et que l'on y rendait au lieutenant le même culte qu'Annette au capitaine. Pendant que ces deux êtres étaient ainsi aimés par deux femmes qui les comblaient de plaisir et adorés par tous les malheureux de tout un pays, si bien qu'aussitôt qu'ils sortaient, ils étaient suivis des bénédictions de chaque pauvre paysan. Il y avait à Durental un cercle de gens qui s'occupaient, avec toute l'activité d'un comité directeur, de savoir l'histoire de leur fortune, de leur amitié, et qui brûlaient de connaître ce qu'ils avaient si grand soin de cacher. Ainsi, Argot était placé dans un château comme sur un baril de poudre, et une étincelle pouvait tout faire sauter. Aussi avait-il soin de vivre dans une retraite absolue. Déjà, M. de Seigues s'était présenté une fois en s'annonçant comme le maire de Durental et n'avait pas été reçu. Cette circonstance avait piqué la curiosité et aiguisé les langues.
« Comment ? » disait Mademoiselle Sophie. « Il a positivement refusé de vous recevoir. »
« Oh, mon Dieu, oui.
Mais c'est un parti pris. Il faut qu'il y ait des raisons.
C'est comme toutes ces aumônes et ces bienfaits. Croyez-vous que l'on dépense 100 000 francs à bâtir et 100 000 écus à fonder un hôpital pour tout un canton sans des raisons ? Ou c'est pour leur plaisir, ou c'est par conscience.
Le fait est, reprit Marguerite, que tout a une cause. Et lorsque les gens sont tristes, c'est qu'il y a quelque anguille sous roche. Lorsque les gens se renferment, c'est qu'ils courent des dangers à être vus. Et de tout cela, il résulte que leur conduite n'est pas claire.
Une singulière chose, dit Monsieur de Rabon, c'est que lorsque monsieur le percepteur a voulu inscrire sur son rôle le nom du propriétaire, le grand sec, qui cache aussi son nom, lui a dit d'inscrire le nom de monsieur de Durantal, son nom de baptême.
« C'est vrai, » dit le percepteur.
« Or, à Valence, » continua monsieur de Rabon, « il a refusé de fournir ses pièces pour être porté sur la liste des électeurs. » Et le conservateur des hypothèques, qui est mon parent, m'a dit que le contrat de vente de Durantal portait un autre nom que celui de Durantal. Il m'a promis de rechercher ce nom, qui est très bizarre.
« Oh, vous ne nous aviez pas encore dit cela ?» lui répliqua Mademoiselle Sophie.
« Je le crois, j'arrive de Valence. »«
Et il n'y a pas de nom de baptême ?» demanda-t-elle.
« Je ne vous dirai pas, » répliqua Monsieur de Rabon.
« Des gens qui vont à sa chapelle, » dit le receveur des contributions, « prétendent qu'il est excessivement dévot, qu'il pleure quelquefois à la messe, et jamais on ne lui a vu la figure tranquille.
« Oh, il est facile, » ajouta-t-il, « de s'apercevoir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette figure-là. »
« Mais vous souvenez-vous, » dit Mademoiselle Sophie, que dans le temps, il a donné au préfet tous les signalements des brigands de Saint-Vallier, et que néanmoins, l'on n'en a pas trouvé un seul. En ce moment, le curé entra, et l'on aperçut sur le champ les marques d'une vive agitation sur sa figure. Il salua, s'assit et dit « Il arrive quelque chose de bien singulier à Durantal. »«
Mais qu'est-ce » demanda-t-on de toutes parts.
« Voici. » répondit le curé. Ce matin, Marinet, le vieux jardinier de Durantal, est venu me trouver. Cet homme a toujours été mon protégé, et dans toutes les circonstances de sa vie, il m'a toujours consulté. Il était ce matin plein d'effroi. Hier au soir, il ordonnait aux ouvriers de creuser, dans une grotte, les fondations d'un petit mur que Madame de Durantal a demandé que l'on fît à l'insu de son mari. « Parce qu'elle veut, m'a-t-il dit, placer à l'entrée de la grotte souterraine un sofa, une table. Et pour les préserver de l'humidité, elle adosse ses meubles à ce mur qu'elle veut décorer aussi. » Marinet regardait faire les ouvriers, lorsqu'en donnant un coup de pioche, l'un d'eux a enlevé, sans le savoir, des cheveux.
« Des cheveux ? » s'écria-t-on.
« Oui, et noirs comme du jais. » « Alors, Marinet, » reprit le curé, en voyant cette touffe au bout de la pioche, a dit aux ouvriers qu'il était trop tard pour continuer. Il leur a fait laisser leurs outils et les a renvoyés. Quand il les eut reconduits, il revint à la grotte de Rocaille et il s'assura que ce qu'il avait vu était des cheveux d'homme.
« Oh, quelle horreur ! » s'écria-t-on.
« Gardez le plus profond silence là-dessus, » dit le curé. « Or, en examinant le terrain, » continua-t-il, « il sentit une odeur très méphitique s'exhaler du trou que l'on avait commencé de faire. Il prit une autre pioche, et pour vérifier des soupçons auxquels il n'osait pas croire, il continua de fouiller, et après avoir écarté la terre, il découvrit le squelette d'un homme. » À ces paroles, une profonde horreur se peignit sur tous les visages. « J'en suis encore tout tremblant, » dit le curé. « J'ai conseillé d'abord à Marinet de remettre le terrain
comme l'avaient laissé les ouvriers, et ensuite de se taire jusqu'à ce que j'aie réfléchi à la conduite qu'il devait tenir. Et en effet, il y a de grandes réflexions à faire, car personne n'a disparu du pays depuis que M. de Durental y est. Le corps peut être très anciennement dans cet endroit, et les propriétaires actuels n'ont rien savoir. Enfin, s'il y a eu un crime de commis, ce peut n'être pas lui. Cet homme enterré là, ne peut-il pas être un des maçons qui construisirent la grotte et qui aurait pu être écrasé ?
Oui, mais on saurait qu'il a disparu,
s'écria de Sec. Enfin, s'il est vrai qu'il existe un corps, il y a, de telle manière qu'on envisage la chose, une contravention aux lois de police ou un crime. Quel que soit le coupable, je n'en ai pas moins le droit de descendre à Durental avec le juge de paix et de faire un bon procès-verbal, d'avertir le procureur du roi, et si monsieur de Durental n'est pas criminel, nous saurons toujours quel il est, sa famille, son pays. Et si par hasard nous avions découvert un coupable, les autorités de Durental auraient une certaine célébrité pour n'avoir pas été arrêtées par le nom et les richesses du coupable, comme Cicéron avec Verrès.
« Cela devient très grave !» dit mademoiselle Sophie.
« Dans une affaire semblable, fit observer le percepteur, il faut prendre bien des ménagements. »
« Il n'en faut jamais avoir avec le crime,
répliqua mademoiselle Sophie. Et l'immense fortune de monsieur de Durental est acquise sans qu'on sache comment. De plus, remarquez, s'il n'avait pas acheté Durental, comment s'appellerait-il ?
À cette observation judicieuse, chacun se tut.
« Il a donc un autre nom, reprit de Sec. Et ce nom, pourquoi le cache-t-il ?
Cependant, il est vrai de dire aussi que le préfet le connaît, et que l'on m'a dit qu'il l'appelait quelquefois par ce nom-là, mais entre eux seulement. Ici, l'on peut dire « Cave Necadas, garé le poteau noir », car il est ami du préfet, et une démarche offensive.
« Mais, monsieur de Sec, reprit mademoiselle Sophie, vous êtes tellement indépendant par votre fortune, et vous jouissez d'une considération si éminente dans le département, que si quelqu'un est maltraité là-dedans, ce ne sera que le jardinier.
« Allons, sicitur ad astra, c'est-à-dire je passe le Rubicon. J'irai, monsieur le curé, vous pouvez m'envoyer mariner et je me charge de tout. »
« Ainsi, dit mademoiselle Sophie, nous saurons à quoi nous en tenir sur le compte de nos grands seigneurs et nous apprendre le nom de baptême de monsieur de Durental. Je voudrais bien le savoir. Oh, monsieur de Sec, instruisez-nous de tout ce que vous aurez fait. »
« Oh, nous n'y manquerons pas !» répondit Marguerite. Voyons de notre côté comment au château l'on pouvait détourner l'effet de cette conjuration permanente qui venait de prendre une aussi dangereuse direction. Vernier était revenu, et Annette, en le voyant le matin, le tourmenta beaucoup pour savoir comment et par où il était entré à Durental.
« Mais, disait-elle, « on ne vous a pas vu rentrer, il faut donc que ce soit de nuit. »«
C'est de nuit, » reprit-il d'un air préoccupé.
« Qu'avez-vous ? » dit Annette. « Comme vous répondez, vous n'avez pas assurément passé la nuit à Durental ?»«
Non. »«
Et vous êtes revenu cette nuit ?»«
Oui. »«
Ah ! » s'écria Argot, « voici du mystère. »«
Vous êtes donc mystérieux ?» dit Annette en riant.
Vernier ne répondit pas. Il se contenta de regarder le délicieux tableau offert par ces deux êtres qui semblaient n'en faire qu'un seul si parfaitement bien que la voix de l'un semblait l'écho de l'âme de l'autre. Et ce regard avait quelque chose de si douloureux qu'Annette dit à Vernier « On dirait que vous nous plaignez. »
« Peut-être, répondit-il.
Et se reprenant, il regarda Argot et lui dit d'une voix brusque
« Mon ancien, suis-moi !»
Cette parole avait quelque chose de si extraordinaire qu'Annette en fut alarmée.
« Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Un feu quelque part ? Oh, mes amis, restez !»«
Il n'y a de feu nulle part, » répondit Vernier. et un geste impérieux qu'il fit indiqua à Maxandy de venir.
« Mon ami, lui dit-il à voix basse quand ils furent dans le salon, je t'ai dit que je restais un diable, occupé à faire feu sur tout ce qui pouvait vous gêner.
« Mon cher Vernier, répondit sur le champ Argot, je te défends de te mêler en rien de mes affaires avec les hommes. S'il te faut, pour me garantir d'eux et de leur justice, commettre une seule action blâmable. Je sais qu'à chaque pas je cours des dangers. Mais ce que je sais, c'est que pour expier ma vie, il n'y a pas assez des pénitences et des autels ordinaires. Il n'y a qu'un autel pour moi. Il se dresse partout. Il n'y a qu'une pénitence, on la décrète partout. Cet autel est sous la voûte du ciel, sur une place publique, on le nomme échafaud. J'irai le jour que la justice humaine m'appellera, tout en cachant ces lugubres pensées à Annette, car il faut qu'elle les ignore. Mais je t'en conjure, ne cherchons pas à défendre notre vie par des moyens affreux, cela n'est pas chrétien. Et cesse surtout de veiller sur moi. Je sais ce que peut enfanter ta protection.
« Tu es maître de toi, reprit Vernier, mais depuis que tu t'es enreligiosé, je suis redevenu mon maître, et je sais que j'ai hérité de toute l'énergie de mon ancien capitaine.
« Non, tu ne l'as pas tout entière, s'écria Argot en levant ses mains vers le ciel, car toute mon énergie a passé du côté de la vertu.
« Soit, reprit le lieutenant, mais écoute ce que je te demande. C'est peu. Et ce peu, c'est
« Sauve-toi et sauve Annette. »«
Pas de lâcheté !» dit Argot avec un terrible regard.
« Je ne t'en conseillerai jamais. Je te demande seulement de me laisser mettre ici demain et de rester dans ton appartement. »«
Non, » dit Argot. « Que le diable t'emporte !»
Et le lieutenant le laissa retourner auprès d'Annette.
« J'espère, dit cette dernière en s'asseyant sur les genoux de son mari, que cette bouche-là va me dire ce que ces oreilles-là ont entendu, parce qu'une femme doit tout savoir.
Tout.
Allons, dis, mon ami, j'écoute.
Annette, répondit-il en l'embrassant, n'écoute pas, je t'en supplie, tu n'entendrais rien. Annette se leva et s'enfuit dans un coin. S'assit et ne dit pas un mot. Argot l'y contempla et crut l'avoir fâchée. Mais cette céleste créature, s'accusant même de cette séparation plaisante, revint s'asseoir sur son mari et, l'embrassant avec amour, elle lui dit « J'ai eu tort de t'interroger. Je sais que tu me l'aurais déjà dit, si cela se pouvait. » Argot, attendri, ne lui dit qu'une phrase. Et cette phrase fit rester Annette épouvantée sur le sein du pirate.
« Mon Annette, dit-il bien bas, Vernier m'a vu donner la mort, et il n'y a encore que toi qui me l'ai pardonné. »
Annette, à ce moment, tourna ses yeux vers le ciel et le regarda d'une manière si touchante que si les anges ont vu ses pleurs, la grâce du criminel a dû être obtenue. Il y avait tant dans ce regard céleste.
« Eh, mon amour, dit-elle, que de fois n'as-tu pas donné la vie? Tu es une seconde providence pour tout un pays. Rends l'existence à autant d'êtres que... rétablis le bonheur autant de fois que tu as créé l'infortune. Oh, il restera le crime, je le sais, mais je témoignerai de tes larmes. Ah, mon tendre ami, mon noble époux de gloire, pourquoi avoir réveillé cette douleur? Je prie, j'espère. Oh oui, tu seras sauvé. Une voix me le crie. »
Elle le prit dans ses bras et le serra contre son cœur en l'embrassant avec une effusion, une exaltation sans modèle.
« Oh, que je suis heureuse d'être femme et de t'avoir rencontrée. »
Argot était à ses pieds et les baisait avec l'ardeur de la folie.
« Béni soit la Vierge qui rend au coupable une conscience, qui lui met la prière sur les lèvres et les pleurs dans les yeux. Oh, mon ange, le ciel t'a envoyé pour me soutenir. »
Chaque jour voyait ainsi leur amour s'accroître, Annette devenir plus touchante, et leur présence,
dans une chaumière, égalait celle du soleil dans la nature. Cependant, Vernier ordonnait de fermer toutes les portes et de ne laisser accès au château que par l'avenue qui donnait sur la grande route, et il s'était posté avec une longue vue marine pour examiner tout ce qui passait sur cette route. Il avait perpétuellement occupé Marinet, le jardinier en chef, et ne le laissait pas une minute en repos. Infatigable, il allait de la loge du concierge à l'appartement d'Argot, et paraissait dans une grande contention d'esprit. Enfin, le surlendemain de cette journée, c'est-à-dire le lendemain du jour où De Sec avait pris chez Mademoiselle Sophie la détermination de descendre à Durantal avec le juge de paix, Vernier aperçut, au moyen de sa marine, le maire en écharpe et le juge de paix en costume, débouchés par l'allée, suivi du garde champêtre et du greffier. Il abandonna son poste, fut enfermé Argot et sa femme dans leur appartement et revint dans la cour, prêt à recevoir la justice avec les moyens d'une défense formidable, dont le chapitre suivant va nous faire connaître l'explosion. Chapitre 19. Monsieur de Sec s'avança gravement vers le lieutenant qui, sans attendre qu'il ouvrît la bouche, lui demanda « Que voulez-vous ? » Absolument comme les Suisses des ministères. « Monsieur, lui répondit de Sec, j'arrive au nom de la loi, du roi. »«
Etc. » ajouta le lieutenant en riant.
« Monsieur, reprit de Sec sans se déconcerter, nous avons la plus profonde estime pour monsieur de Durantal et sa vertueuse femme. Ils sont les bienfaiteurs de cette campagne. Mais le rapport qu'on a fait à l'autorité d'un fait singulier et extraordinaire nous amène... Nous sommes désolés de cette circonstance désagréable pour lui, mais nous avons pris les précautions qui marquent notre respect. Nous sommes venus au matin.
Monsieur, reprit Vernier en l'interrompant, j'ignore encore ce dont vous voulez parler, mais monsieur de Durantal est en ce moment à Valence, et vous ne le gênerez en rien. Ainsi, lorsque vous m'aurez expliqué le sujet de votre visite judiciaire, je vous aiderai de tout mon pouvoir à atteindre le but.
Voici, ajouta-t-il en souriant, la seconde que nous fait la justice, et la première était on ne peut plus déplacer.
Monsieur, répondit de Sec, voudriez-vous avoir la bonté de nous conduire à la grotte en rocaille qui se trouve dans le parc, et chemin faisant, je vous expliquerai l'objet de notre visite. Vous nous aurez excusé, datis veniam, lorsque vous saurez que nous serions répréhensibles de ne pas agir ainsi. Votre jardinier, monsieur, a découvert, en bêchant à l'endroit de la grotte, un cadavre, et il paraît que c'est celui d'un homme. Ici, Vernier se mit à éclater de rire, et de telle manière qu'il était obligé de se tenir les flancs. Monsieur de Sec, le juge de paix, le greffier et le garde, interdits, se regardaient les uns les autres. Et de Sec, commençant à soupçonner quelques mésaventures, tremblait d'autant plus que le juge de paix, qui ne s'était prêté à cette démarche qu'avec la plus grande répugnance, lui lançait des regards foudroyants.
« Venez, messieurs, venez !»
leur dit Vernier en riant toujours. Et prenant de Sec par la main comme une dame, il le guida en ajoutant
« Venez, dressez procès-verbal !»
Ils entrèrent dans le parc, et le juge de paix, saisissant un moment où Vernier était en avant, il poussa le coude au maire et lui dit
« Quand je vous disais que vous alliez me compromettre !»«
Patienza, comme dit Cicéron, répliqua de Sec en faisant bonne contenance. Alors le juge de paix, se tournant vers son greffier, le garde champêtre et l'ouvrier, qu'ils avaient requis de venir, leur ordonna de rester à l'entrée du parc. « Car, se dit-il, puisque nous allons faire une sottise, qu'au moins il n'y ait pas de témoins bavards. » Quand ils furent arrivés à la grotte en rocaille, précisément à l'endroit où Vernier et Argot avaient enterré Navardin, le chef des voleurs de la forêt de Saint-Vallier, Vernier, regardant De Sec avec malignité, lui dit « Voulez-vous que ce soit vos gens qui ouvrent la fosse de ce cadavre ?»«
Oh, monsieur !» reprit De Sec, « faites-le faire par votre jardinier. »
Alors Vernier appela un nègre qui leur était tout dévoué, à Argot comme à lui, car il l'avait sauvé de la mort. Et lorsqu'il fut venu, « Milo, lui dit-il, prends cette pioche et mets à nu tout ce terrain-là. »«
Maître, il a voir jafouillé, car avoir vu, moi, mariner regarder, et mettre de côté la pioche et sticheval. »
En achevant ces mots, il montra au bout de la pioche la poignée de cheveux qui était restée.
« Le jardinier avait raison !»
s'écria De Sec en regardant le juge de paix étonné.
« Pourquoi ? » dit Vernier.
« Marinet a-t-il recouvert le corps et remis la terre après s'être aperçu de cette singulière chose ? Qu'on le fasse venir. Mais avant, laissez votre pioche et prenez-en une autre, puisque Marinet s'est gardé d'employer celle qui a des cheveux au bout.
Messieurs, cette précaution-là annonce des raisonnements en plus grande quantité que n'en contient la cervelle de Marinet. »
Le maire rougit, car c'était lui et le curé qui avaient conseillé à Marinet d'agir ainsi.
« Il aurait fallu, reprit Vernier, au moins laisser le terrain en même état, puisqu'on laissait la pioche. »
Pendant ce temps, le nègre mettait le corps à découvert. Il le souleva avec sa pioche, et la plus grande confusion régna sur la figure des deux fonctionnaires de Durantal en voyant un chevreau, et en reconnaissant que les cheveux noirs, attirés par la pioche, étaient des poils de la tête du chevreau. Ils les confrontèrent, reconnurent que le coup de pioche avait porté sur la tête, et ils se regardèrent l'un l'autre en ne sachant que résoudre. Alors le juge de paix alla vivement à la rencontre de Marinet, et, lui faisant voir la pioche, il lui dit « Reconnaissez-vous cela pour votre pioche et cette touffe pour les cheveux ?»«
Oui, monsieur, » dit le jardinier.
« À quelle heure avez-vous mis à nu le corps de la victime ?» reprit De Sec en riant.
« À 10h30 du soir, » répondit le jardinier stupéfait. « Et voyez-vous clair ?» reprit le juge de paix. « J'avais, sous votre respect, une lanterne. »
« Vous n'aviez pas de besicle ?» reprit De Sec.
« Non, monsieur le maire. »«
Eh bien, je le crois, » continua le maire. « Allez, mon cher, vous êtes un imbécile, et vous ferez mieux d'avoir des longues vues avant de compromettre les autorités. »«
Pourquoi, » dit Vernier, « ne pas m'avoir prévenu d'une semblable chose ?»«
Monsieur, vous n'y étiez pas. » »«
Marinet, » dit Vernier d'un air sévère, « vous n'êtes plus au service de monsieur de Durantal. Je n'aime pas les valets qui cherchent à nuire. Mais, en faveur de l'ancienneté, l'on vous fera une pension viagère de 100 écus. Allez, et une autre fois, ne prenez pas des chevreaux pour des hommes. »
« Maintenant, messieurs, » poursuivit-il, « c'est à vous à l'engager à garder le secret. Et quant à moi, je vous le promets. »
Marinet restait stupéfait. Il s'en alla à la grotte, et voyant le chevreau, la pioche, la touffe,
« C'était pourtant bien un homme » s'écria-t-il.
« Malheureux !» lui dit De Sec qui l'avait suivi. « Si tu répètes une calomnie semblable, et si tu ne gardes pas le silence sur une semblable méprise, gare à toi !»
Vernier emmena les deux fonctionnaires vers le salon. Là, il dit à son nègre de voir si monsieur de Durantal n'était pas revenu de Valence. Et en prononçant cette phrase, il lui lança un regard significatif.
« Messieurs, » dit-il à De Sec et au juge de paix, « monsieur de Durantal a bien regretté de n'avoir pu jusqu'ici vous recevoir, et son dessein était d'aller vous visiter. Mais s'il est de retour, je me charge de vous faire connaître le bienfaiteur de la contrée, et de vous faire déjeuner avec lui. » D'autant plus qu'il est assez nécessaire de s'entendre avec vous pour tout le bien qu'il médite de faire encore dans le pays. Il veut choisir parmi vous l'administrateur de l'hôpital qu'il fait construire et fonder une école gratuite d'enseignement.
« Oh ! dit de Sec. Je ne crois pas qu'il y ait en France un mortel plus bienfaisant, plus vertueux que monsieur de Durantal. Je ne passe pas devant une chaumière que je n'entende la chanson de reconnaissance que les paysans ont faite pour lui et madame, et ils la chantent à leurs enfants. Que Dieu conserve longtemps un homme aussi utile. Messieurs, je vous prierai de garder le silence sur votre expédition devant monsieur de Durantal, et en voici la raison. On n'inhume pas un chevreau dans un parc sans motif. Le voici. Monsieur de Durantal a été nourri par une chèvre, qu'il a aimée beaucoup, et c'est naturel.
« Oh, la belle âme !» dit de Sec.
« Oui, dit le juge de paix. Ce pauvre bouc, dont vous avez vu la dépouille, reprit Vernier, était le dernier enfant de sa nourrice, et monsieur de Durantal y tenait singulièrement. Il est mort dernièrement, et je lui fais accroire qu'il vit toujours. Vous sentez...
Oh, très bien, dit de Sec.
Maintenant, pendant que le nègre va lever les arrêts auxquels Vernier avait condamné Annette et Argot, qui, heureusement, ne s'en était pas aperçu, expliquons cette énigme au lecteur. La nuit, pendant laquelle Marinet, muni de sa lanterne, avait été fouillé la grotte, était celle où Vernier revint de chez sa chère Jeanneton. Il venait à travers le parc, et son cheval, marchant sur les gazons, ne faisait aucun bruit. Le lieutenant avait aperçu Marinet et sa lanterne, et l'avait épié. En le voyant explorer la grotte, et sa pioche se lever et se baisser tour à tour, il comprit qu'il fouillait à l'endroit où lui et Argot avaient enterré Navarda. Il s'en fut donc à l'écurie, éveilla son nègre, lui demanda le plus profond secret, s'en alla pousser une reconnaissance sur le terrain. Et là, le pressant danger lui fit venir une idée lumineuse. Ce fut de remplacer le corps du brigand par celui du chevreau chéri de Jeanneton, et de brûler Navardin dans de la chaux vive. Alors, dans la même nuit, au moyen de chevaux excellents, le changement eut lieu, et l'adresse du nègre amena une parfaite ressemblance. Cette aventure fit réfléchir Vernier au danger de n'être pas entouré de gens fidèles, et à l'exception des trois nègres qu'ils avaient délivrés, il résolut de renvoyer tous les autres domestiques et de les remplacer peu à peu par les plus honnêtes de ses anciens corsaires qui trouveraient ainsi une douce existence. Poursuivons. Milo, le plus fidèle des trois nègres et le plus intelligent, revint bientôt, disant que M. de Durantal arrivait à l'instant de Valence et qu'il comptait bien, sur la nouvelle qu'il recevait de la visite de ces messieurs, qu'il déjeunerait à Durantal. Alors Vernier laissa les deux héros du chevreau occupés à admirer la magnificence des salons du château, et il fit prévenir Argot qu'il aurait à déjeuner le maire et le juge de paix de Durantal. Le jardinier revenait tout stupéfait de sa grotte. Il aperçut dans le salon les deux magistrats, et, mettant un pied sur les marches du salon, il leur cria « C'était bien un homme !»« Il est fou !» dit de Sec. « Mais sa folie peut nuire !» répliqua le juge de paix.
« Bah ! S'il le répète, nous lui donnerons sur les doigts !» répondit le maire, enchanté de pouvoir déjeuner avec l'ami du préfet, et dans ce château où il désespérait d'entrer.
« Comment ? » dit-il au juge de paix. « Ces bécasses de femmes et ces ardélionnes, ces farceurs de chez Mademoiselle Sophie, la revendeuse de propos et la marchande de caquet qui fait des enfants et dit des orémus, peuvent-ils chercher à noircir un homme comme monsieur de Durantal ? Le plus riche du département, le bienfaiteur de la contrée, homo probus, un homme d'or ? C'est de la canaille, plebs, plébécula, le commun des martyrs, et cela veut juger les grands. Monsieur de Durantal est assez puissant pour vous faire nommer juge au tribunal. Oh, c'est le plus estimable de tous les hommes. Vous l'allez voir. C'est un superbe homme, petit mais large, fort à ce qu'on dit,
il enlève une femme comme une plume. Il est vrai que cela ne pèse guère. J'accepte Madame de Sec. »
À ce moment, Vernier entra et leur annonça Monsieur de Durental. En effet, l'on entendit le bruit de ses pas dans l'antichambre. De Sec était devant la cheminée et en face de la porte. Le juge de paix regardait la vue du parc par la fenêtre et, heureusement, Vernier causait avec le maire. Argot entre. De Sec, avec sa figure obséquieuse, leva les yeux, alla à sa rencontre, mais tout à coup s'arrêta, pâlit, et Argot fut en proie à la plus vive émotion. Le geôlier Daunet reconnaît son prisonnier, celui auquel il doit sa fortune, et Argot, l'homme auquel il a dû la vie, et le maître de ses secrets. Vernier, s'apercevant d'un seul coup d'œil de cet incident extraordinaire, prend De Sec par le bras, l'entraîne vers une embrasure de croisée, et pendant que dans le chemin le maire épouvanté lui dit à voix basse
« Oh, c'était un homme !»
Le lieutenant lui répondit « Silence !» et l'enchanta par un regard comme le boa d'Afrique. Pendant que le juge de paix saluait Argot stupéfait, le lieutenant dit au maire « Trouvez donc un moyen de renvoyer le juge de paix, et afin que nous restions seuls, surtout contenez-vous. » Alors le lieutenant, sans se décourager, dit par la fenêtre à Milo, qui avait l'ordre de ne jamais quitter Vernier, « Cours chez madame, et dis-lui de ma part de rappeler monsieur auprès d'elle et de l'y retenir. Il y va de beaucoup pour elle. » « Monsieur le juge de paix, » disait De Sec, auquel la réflexion était revenue et qui voyait dans cette affaire un sujet de fortune et d'élévation. « Vous devriez avoir la complaisance d'aller à Durental prévenir nos chères moitiés que nous déjeunons ici. »« Mais, » s'écria Vernier, « on peut les faire prévenir, à moins que monsieur le juge de paix ne préfère y aller. Mais par l'humidité qu'il fait, je ne souffrirai pas qu'il y aille à pied. » « Milo, Milo, il mettra les chevaux et vous mènera. »«
Mais, monsieur, je ne veux pas... »«
Si, si, pas de façon, » dit Vernier. « Eh bien, qu'as-tu donc ? » ajouta-t-il, en voyant la morne contenance d'Argot. « Que t'arrive-t-il ? Tu es pâle. »
« Je suis résigné, » répondit lentement Argot.
« À bien déjeuner ? » répliqua Vernier en riant. « Milo, » continua le lieutenant au nègre qui était revenu, « mettez les chevaux, conduisez et ramenez monsieur le juge de paix. »«
Lentement, » ajouta-t-il tout bas.
« Monsieur, c'est inutile, je vous assure, » disait le juge de paix. « Ah, » dit Vernier, « vous faites des cérémonies. Mais qu'a donc Milo ? » ?»«
Durental, il veut te parler. »
« Monsieur, » répondit le nègre en s'adressant à Argot. « Madame vous demande, elle n'est pas bien. » Argot s'élança comme un trait, et Vernier dit au juge de paix récalcitrant
« Dépêchez-vous donc, dans une demi-heure nous déjeunerons. »
« Dites à ma femme que je suis désolé, » ajouta De Sec. Le pauvre juge de paix s'en alla de force, comme Basile dans Figaro.
« Monsieur, » dit le lieutenant à De Sec, l'emmenant dans le jardin au milieu d'une vaste pelouse. « Votre étonnement à l'aspect de monsieur de Durental n'est pas naturel. Vous savez quelque chose sur lui. Je suis son ami, et son ami à la vie et à la mort. La phrase qui vous est échappée me fait croire que vous êtes instruit. Prenez garde, il s'agit d'aller rejoindre le chevreau. Aucune puissance humaine ne pourrait vous soustraire à votre sort, car je me dévoue au salut de Durental. Voyons, que savez-vous ? Surtout ne me cachez rien. »
Il y avait une telle puissance dans cette dernière phrase, Vernier la prononça en y déployant une telle volonté, si forte, si impérieuse, que De Sec, tremblant et subjugué à l'aspect de ce visage contracté d'une manière terrible et presque effrayante, lui répondit « Monsieur, je sais que monsieur de Durental était possesseur d'une terre avant la pavée, qu'il a enlevé mademoiselle Mélanie,
qu'il a tué M. de Saint-André à A, et que le procureur du roi de cette ville l'avait signalé comme un pirate sous le nom d'Argo. C'est moi qui fus chargé de veiller à sa personne, et il m'a donné 100 000 francs pour le délivrer.
Eh bien, monsieur, comment voulez-vous agir? En ennemi ou en ami? Répondez sur le champ, et songez qu'une syllabe, un regard, une parole équivoque, vous donneront la mort, si restant notre ami, il vous échappait, et que cela influa sur le sort de monsieur de Durantal. Si vous restez ennemi, avant 1 heure vous n'existerez plus, car je vous tuerai, et je m'arrangerai de manière à ce que cela tourne comme le chevreau pour moi. Si vous voulez vous taire, vous devenez notre ami. Vous aurez 20 000 francs par an pour votre silence, et celui qui a fait monsieur Badger préfet servira de tout son crédit monsieur de Sec, afin de le faire parvenir.
Monsieur, dit de Sec, jamais de ma vie, fût-ce mon ennemi, je n'enverrai un homme à l'échafaud, encore moins celui qui m'a donné tout ce que je possède. Je ne puis pas répondre des événements et des circonstances, mais je ne crois pas avoir jamais à parler sur votre ami.
En voilà assez, reprit le lieutenant. Par le canon de ce pistolet, et il fit voir à De Sec effrayé un de ses pistolets qu'il portait toujours. Je te lie à moi. Si tu manques à ta parole, ceci ne te manquera pas. Si l'on arrête Argo, tu meurs. Mais aussi je te permets de parler, si nous manquons jamais à satisfaire tes désirs.
De Sec tressaillait. Sois donc calme, lui dit le lieutenant, et surtout songe à ne jamais t'adresser qu'à moi quand tu voudras quelque chose. Retiens cela, car si tu parles à Argo, je te brûle le crâne. Maintenant rentrons. En la cheminant vers le salon, il lui dit encore, « Vous viendrez ici comme bon vous semblera, et vous en agirez comme ami de la maison. » Argo et Annette étaient déjà dans le salon. Annette, effrayée, regardait Vernier avec une sourde terreur, mais ce dernier lui dit à voix basse, « Ange du ciel, ne craignez rien. »
« Eh bien, monsieur, dit Argo à monsieur de Sec, il paraît que vous vous souvenez bien du punch donné. »
« Je m'en souviendrai toujours, répliqua l'adroit de Sec, pour bénir la mémoire de mon bienfaiteur. »
Ces paroles rendirent le calme à Argo, qui n'avait tremblé que pour Annette. Le juge de paix revint, le déjeuner fut gai, et Vernier eut soin que Milot versât souvent du champagne au maire, et Milot était le seul domestique qui servit à table, quoiqu'ils fussent plusieurs domestiques habituellement. Quand les deux convives furent partis, enchantés d'Annette, et que De Sec s'en fut avec le plus profond respect pour cette céleste femme, Vernier dit, en s'essuyant le front, « Jamais combat, pas même celui de Charlestown, ne m'a fait autant suer que cette journée. » Annette lui prit la main, et, la serrant avec amitié, lui dit « Brave homme! Oh, comment vous récompenser? J'ignore même l'étendue de vos services. »
Vernier, dit Argo, j'espère que rien de mal.
Enfant, répondit le lieutenant en levant les épaules. Il leur prit les mains à tous deux, les serra dans les siennes, et, les regardant avec attendrissement, il leur dit, en proie à la plus vive émotion, mes amis, écoutez-moi. Il faut quitter la France, la quitter au plus tôt. Vous, madame, tout lieu vous est égal. Ainsi, comme 15 jours seraient déjà un retard fatal, profitons des avis du ciel. Je vais dès aujourd'hui m'occuper de votre départ. Je songe que jamais je n'ai rien vu de si délicieux sur la terre que les îles Bermudes. Le ciel, le climat, les plantes, tout est divin, digne de vous. Là, nulle justice n'enverra de recors, de gendarmes ni d'huissiers. C'est là que vous devez aller habiter. Nous emmènerons monsieur et madame Gérard, nous emporterons la charge d'un bâtiment, de tout ce qu'il y a de commode, de joli, de précieux à Durantal, et en France,
et au moins vous serez sûr de vivre toute votre vie sans alarme, heureux. Et vous y trouverez, je vous jure, les moyens d'être chrétien comme partout, puisque c'est votre fantaisie. C'est moi qui vous en conjure et vous en supplie. »
« Je n'ai rien à dire contre un projet aussi raisonnable, » répondit Annette.
« Rien, » dit Argot, « ce n'est qu'une lâcheté. »«
Ce serait une lâcheté, » reprit Vernier, « si tu étais seul au monde, mais tu auras des enfants. »
Ce mot rendit Argot immobile. Il répéta avec une espèce de frénésie,
« Mes enfants ?»«
Certes, » dit Annette, ajoutant un regard qui signifiait qu'elle en avait l'espoir.
« J'irai, » fut toute la réponse de Maxendy.
« Cette réponse, » dit Vernier à Annette, « est l'assurance d'un bonheur éternel. »
Rien n'était en effet plus sage et mieux combiné qu'un tel plan. Les événements qui se pressent vont nous apprendre comment la fatalité avait décrété sur son autel de fer que les pressentiments d'Annette, avant d'épouser Argot, étaient bien la voie de l'avenir.
Chapitre 20. On sent qu'il y avait une convocation extraordinaire de tous les membres qui composaient la société de Mademoiselle Sophie, pour la soirée du jour où le maire et le juge de paix étaient descendus judiciairement au château de Durental. Pour tout le littoral de la Méditerranée, personne n'eût voulu manquer à cette assemblée, et Mademoiselle Sophie avait même risqué le punch et les gâteaux pour aiguiser les langues. De très bonne heure, le salon avait été décoré, les sièges préparés, les housses ôtées, et Mademoiselle Sophie, prête aussitôt que son salon, ne tarda pas à voir arriver le curé, qui fut suivi de toute la société, moins Monsieur et Madame de Sec, et le juge de paix.
Nous saurons donc ce soir, dit Mademoiselle Sophie, à quoi nous en tenir sur nos seigneurs.
Il y a quelque chose de bien extraordinaire, dit Monsieur de Rabon. C'est que j'ai appris que Marinet est renvoyé.
Renvoyé ? S'écria-t-on.
J'ai vu ce matin Madame de Sec, dit Madame de Rabon, et elle m'a dit que ces messieurs avaient déjeuné au château.
« Et moi, dit le receveur des contributions, j'ai vu monsieur le juge de paix dans la calèche de monsieur de Durental. »«
Voilà du nouveau, s'écria Mademoiselle Sophie. Au surplus, cela nous indique que ces messieurs sont instruits. »«
Ces messieurs, dit monsieur de Rabon, tardent bien, car j'ai 6h30. »
Au bout d'une heure d'attente et d'impatience de la part des expectants, Monsieur et Madame de Sec et le juge de paix arrivèrent. Mais il y eut un grand sujet d'étonnement pour la société. C'est que le juge de paix garda le plus profond silence. Et à toutes les instances, Monsieur de Sec répondit « Nous avons fait une très fausse démarche, et rien n'était plus ridicule que l'histoire de Marinet. »
« Mais vous savez ce qu'est Monsieur de Durental ?»«
Je l'ai vu, mademoiselle. » Et je n'ai pas été de but en blanc, ex abrupto, lui demander son âge, ses noms, prénoms et qualités.
Chacun se regarda et se dit en soi, « Il y a quelque chose là-dessous. » D'autant plus que De Sec et le juge de paix, détournant la conversation avec affectation, donnaient beaucoup à penser et témoignaient que les questions multipliées leur étaient à charge. Lorsqu'on s'aperçut que leur volonté de se taire restait fixe et opiniâtre, on ne les tourmenta plus, et Mademoiselle Sophie s'en alla auprès de Marguerite pour lui dire à voix basse
« Votre mari sait quelque chose qu'il nous cache. »
« Mais, reprit Marguerite, c'est qu'il ne m'a rien dit non plus, et j'ai bien vu qu'il avait des secrets, car il est tout chose. Lui qui parle volontiers n'a rien dit depuis qu'il est revenu. Il est distrait. Je lui ai demandé mon sac, il m'a apporté sa cravate. Je l'ai bien tourmenté pour savoir ce qu'il avait appris. Il m'a dit, mais en colère comme jamais je ne l'ai vu, qu'il voulait que je ne lui parlasse jamais de cela. C'est bien dur à une femme irréprochable comme moi, et qui a porté une si bonne fortune, de ne pas savoir ce que mon mari apprend.
Vous comprenez, dit mademoiselle Sophie, qu'alors ce n'est pas une chose ordinaire.
Ah, il m'a dit que j'irais au château tant que je voudrais, qu'il me présenterait à madame de Durental et que nous y serions comme chez nous.
Diable ! S'écria mademoiselle Sophie. Mais cela est très extraordinaire.
Monsieur Laurent, dit-elle au juge de paix, dites-moi donc un peu si l'on vous a invité à retourner au château, vous et votre femme.
Non, répondit le juge de paix. Vous a-t-on fait autant d'amitié qu'à monsieur de Sec?
Oh, bien moins qu'à lui, car on avait un fier soin de lui. On lui a donné du champagne, on s'est informé de sa femme, on l'a invité, on ne m'a seulement pas parlé de la mienne. On l'avait mis à côté de madame et elle lui parlait beaucoup plus qu'à moi. Mais il est le maire aussi.
« Et ce corps ? » dit-elle.
« Ce corps ? » répondit le juge en riant. « C'est une histoire qui ferait rire tout le monde de nous. »
Il y avait environ un gros quart d'heure que De Sec était chez mademoiselle Sophie lorsque, contre l'ordinaire, il fit signe à sa femme de s'en aller. Et lorsque mademoiselle Sophie lui dit en riant « Vous ne nous quittez pas !»«
Si, répondit-elle, car monsieur de Sec le veut. »
Une fille aussi fine et aussi astucieuse que l'était mademoiselle Sophie devait tirer bien des conséquences de la conduite de De Sec. Et lorsqu'elle le vit partir avec le juge de paix, elle fit interrompre toutes les parties, et l'on se rangea avec la plus grande attention autour d'elle.
« Avez-vous vu ? » dit-elle à cette assemblée, furieuse d'être trompée dans son attente et sa curiosité. « Avez-vous vu quelque chose de plus singulier que ce qui arrive ? Avez-vous remarqué comment monsieur de Sec a été froid, et même malhonnête envers moi et même envers vous ? Comme il était distrait, préoccupé. On l'a engagé à venir au château, lui et sa femme. Il a été l'objet des attentions de monsieur et de madame, et le juge de paix en rien. Il est maintenant devenu, et cela en un instant, l'ami de la maison. Or, on n'est ami des grands que dans trois cas. Quand ils ont besoin de nous, quand on sert leur plaisir, ou lorsqu'on les fait trembler. « Remarquez que c'est monsieur de Sec qui a été le préféré. Quel besoin monsieur de Durental a-t-il de lui? Comment peut-il servir ses plaisirs? En rien. Mais aussi, comment peut-il le faire trembler? Oh, je le répète, il y a un mystère là-dessous, un mystère grave, et la préoccupation de monsieur le maire donne beaucoup à penser. Si monsieur de Sec et sa femme sont bien reçus au château, et que nous ne le soyons pas, je réponds qu'il y a un secret important. » La curiosité trompée de ce cercle dégénéra en une espèce de fureur, et l'on enveloppa le maire dans la proscription. Chaque soir, l'on en parla, et lorsqu'on apprit qu'au lieu d'un corps, on avait trouvé un chevreau, et que le jardinier, malgré sa pension de 100 écus, soutenait qu'il avait vu un homme, on tint chez mademoiselle Sophie les propos les plus défavorables sur De Sec et les seigneurs de Durental. Mais ce qui donna une créance étonnante aux soupçons de mademoiselle Sophie, c'est la conduite de De Sec que l'on observa. Ce dernier resta presque toujours enfermé dans sa femme, ou bien il allait au château. Il cessa par degrés de voir mademoiselle Sophie et défendit à sa femme d'y aller. On s'aperçut qu'il devint rêveur, taciturne, sombre, et qu'il perdit une gaieté qui était connue. Marguerite avait compté leur fortune, et l'on savait que leur bien consistait en telle et telle ferme, et qu'ils n'avaient pas d'argent. Et De Sec acheta, pour 30 000 francs, une partie des terres qui était derrière sa maison, en annonçant l'intention de bâtir et d'arranger sa propriété. D'où peut venir tant d'argent ? Disait mademoiselle Sophie. Enfin, qu'on se mette à la place du pauvre maire de Durental. Il avait le malheur de savoir lire, et il lisait le code. Il y jetait souvent un regard furtif, et connaissait la peine portée contre ceux qui ne font point de révélations sur les crimes dont ils ont connaissance.
sa conscience était tourmentée. Or, il y avait un grand changement dans ses manières, et outre ses terreurs particulières, il en avait une bien plus grande. C'est qu'il voyait toujours ce bout de pistolet que lui avait montré Vernier. Ce grand changement dans sa conduite fut remarqué. Sa femme était trop causeuse pour que le village ignorât que, depuis sa visite au château, M. de Sec ne dormait plus, qu'il parlait souvent seul, etc. Et Mademoiselle Sophie, le soir, de tirer 1000 inductions de l'intimité de Sec avec M. de Durandal et du changement total de son humeur et de ses manières. Elle en vint à dire « Nous savons comment la femme a eu sa fortune, mais elle ne nous a jamais dit d'où venait celle de son mari. Qui est-il? Que faisait-il? Où est au nez le vicomte? Et que s'est-il passé là? Ils y ont demeuré toute leur vie, on doit savoir ce qu'ils y étaient. » D'un autre côté, l'on apprit qu'au château l'on démeublait toutes les pièces et que l'on faisait de grands préparatifs de départ. Et l'on apprit que, malgré la saison plus avancée, on disait au château que l'on allait à Paris. Sur ces entrefaites, Mademoiselle Sophie alla à Valence, et comme elle connaissait tout le commerce, elle y dîna avec l'entrepreneur du roulage, qui lui dit qu'il avait un marché avec M. de Durandal pour transporter de Valence à Fréjus 100 000 livres pesants, et qu'un emballeur de Valence allait gagner des sommes énormes à emballer tout le mobilier de Durandal. Quel nouveau champ de conjecture pour Mademoiselle Sophie! Elle alla chez M. et Mme Bouvier, y vit Charles, et devant le procureur du roi, elle se donna carrière et défila le long et le singulier chapelet de ses soupçons sur M. de Durandal et de Sec. Elle fit remarquer l'obscurité, la complication de tous les incidents de leur conduite. « On dit à Durandal que l'on part pour Paris et les meubles vont à Fréjus. On part après 3 mois de séjour et après avoir annoncé un établissement éternel. On a meublé Durandal comme un palais et on ôte tout, absolument tout. Et cela arrive quelques jours après cette descente judiciaire qui avait pour objet un cadavre. Et ce cadavre est, dit-on, un chevreau. Le jardinier persiste à dire que c'est un homme. Le maire soutient le seigneur est sombre et sauvage, et son nouvel ami devient tout comme lui, taciturne et rêveur. Qu'est-ce, monsieur de Sec? Il est donné le vicomte. Marguerite avait parlé, comme on voit. Ne faudrait-il pas s'informer de sa vie, de sa fortune? Est-elle patrimoniale? Ah, disait-elle, si j'étais ce que vous êtes, monsieur Charles, il y a longtemps que j'aurais écrit à Aunay et appris par les antécédents de la vie de M. de Sec quel rapport il y a entre lui et M. de Durandal. Il y a quelque chose, car tout s'accorde à prouver qu'il existe une complicité. De Sec, qui n'avait pas un sou pour meubler sa maison et qui comptait sur ses économies, vient d'acheter pour 30 000 francs de terre, etc., etc. Nous ne rapporterons pas tout ce que disait Mademoiselle Sophie, guidée par sa haine et sa curiosité. Nous nous contentons de mettre le lecteur à portée de deviner tout ce que le bavardage a de puissance, de voir les fils de la trame que tisse l'envie, et de comprendre ce que c'est que l'opinion publique et son pouvoir. Charles Servigné écouta le long discours de Mademoiselle Sophie avec la plus scrupuleuse attention. Il la questionna, lui fit redire maintes et maintes circonstances, grava tous ses détails dans sa tête et la quitta fortement préoccupée. Elle revint à Durandal et raconta tout à son cercle qui la complimenta sur son esprit, son intelligence et qui admira la finesse de ses aperçus. Sans les vieilles filles qui n'ont rien à faire qu'à s'occuper des autres, comment découvrirait-on tant de choses? Et comment, sur de si petits indices, bâtirait-on des romans entiers? Tantôt M. de Durandal était un banqueroutier, tantôt il était un personnage qui avait conspiré et qui se cachait. etc., etc.
Ah, si Mademoiselle Sophie avait été priée au bal, Monsieur de Durantal aurait été le plus gracieux seigneur que la terre eût jamais porté. Un mois se passa de la sorte, et au milieu de ce mois, Mademoiselle Sophie avait reçu une lettre de Madame Bouvier, qui la priait de garder le silence sur Monsieur et Madame de Durantal, parce que tout ce qui s'était dit chez elle, sur eux, faisait le plus grand tort à sa cousine. Elle déplorait cette conduite et la conjurait de ne pas juger sans entendre. Enfin, vers ce temps, les préparatifs de départ avaient été poussés par Vernier avec une telle activité qu'Annette écrivit à son père et à sa mère de placer toute leur fortune sur la Banque d'Angleterre, de venir les rejoindre sous 8 jours et de se préparer à un grand voyage. On n'attendit plus qu'eux. De son côté, Vernier avait acheté un vaisseau de transport et un vaisseau marchand qui mouillèrent à Fréjus et dont il donna la garde et le commandement à 2 anciens corsaires qui avaient servi sous Argot et leur étaient entièrement dévoués. Toute la fortune d'Argot avait été mobilisée. Il ne restait en France que la terre de Durantal, l'hôtel de la vieille rue du Temple et la terre de Vent. Mais cette dernière propriété, étant au nom de Vernier, était depuis longtemps en vente. Et c'est cette circonstance qui avait sauvé Argot des mains de la justice dans les Ardennes. Car s'il eût possédé cette terre, il n'aurait jamais empêché de suivre ses traces. Il ne restait plus à Durantal que les 2 appartements d'Argot et d'Annette, qu'on ne devait démeubler qu'après leur départ. Et c'était l'infatigable Vernier qui se chargeait de tout. Un soir, il était occupé à emballer des collections d'armes précieuses de la manufacture de Versailles, des haches, des pistolets, des carabines, mais parmi, il y avait ce qu'on nomme un tromblon. Et cette arme terrible était jadis l'arme favorite de Vernier et d'Argot. « Bah ! » dit-il en riant, « je veux garder cette pauvre fille. On ne se sépare pas comme cela de la compagne de ses périls. » Annette trembla à l'aspect de cette horrible machine de destruction, et elle fut effrayée de la manière dont Vernier s'en servait. « Oh ! » dit-elle, « emballez tout cela ailleurs, car cela me fait mal à voir. »« Il y a cependant des armes plus terribles que vous caressez tous les jours. »«
Que voulez-vous dire ? » s'écria Annette.
« Ne tenez-vous pas souvent embrasser la main de Jacques ?»«
Eh bien ?»«
Eh bien, regardez l'anneau qu'il a à son doigt. »
En ce moment, Argot rentra. Et Annette, l'emmenant à côté d'elle, lui demanda, en jouant avec sa main, ce que contenait l'anneau qu'il portait.
« D'où te vient cette fantaisie ? » lui demanda son mari.
« Elle me vient comme toutes les autres, » répondit-elle. « Mais on dit que c'est une arme. »«
Qui t'a dit cela ? » ?»«
Vernier. » »«
Eh bien, dis à Vernier qu'il est un imbécile. » »«
Merci, » dit ce dernier en riant. Mais le fait est que je le mérite, car j'oubliais qu'il n'y a que nous deux qui devons savoir ce que contient cette bague.
Ah, je veux le savoir, car je ne fais qu'un avec Jacques.
Es-tu fou ? Dit Argot en poussant violemment Vernier. Comme il achevait, l'on entendit le bruit d'une voiture dans la cour, et l'on annonça Charles Servigné. Au moment où il entra, Vernier tenait un poignard, et poussé par Argot, il arriva juste en face de Charles, de manière que ce dernier, entrant brusquement, le poignard effleura son habit.
« Vous l'avez échappé belle, » lui dit Vernier. « Le poignard est empoisonné. S'il vous avait écorché, vous tombiez là. Prenez garde, car je ne manque pas 2 fois mon homme. »
« Ah, mon ami, » dit Annette avec un peu d'humeur, « allez emballer vos armes chez vous. « Vous m'avez fait trembler. »
Vernier sortit en murmurant, « Si je l'avais tué sans le faire exprès, j'aurais bien fait peut-être. Cette figure-là m'a toujours déplu. »«
Charles, » dit Annette, « vous nous resterez à Durantal quelque temps, j'espère. »« Mais l'on prétend que vous partez.
Ah ! Dit Annette avec un sourire. Nous attendrons ma mère et mon père.
Allez-vous loin ? Demanda Charles à Argot. Nous ne sommes pas encore décidés.
Telle fut la réponse ambiguë que les sévères principes de Max Andy lui permirent de faire.
Je viens vous apprendre, dit Charles, que j'ai l'espoir d'être nommé avocat général.
À mon âge, c'est une grande faveur.
Mais vous la méritez, dit Annette.
Charles fut reçu par monsieur et madame de Durantal avec une rare cordialité, et Annette, sentant que sa séparation avec son cousin allait devenir éternelle, mit à le voir, lui parler et l'accueillir une affectueuse amitié, une tendresse si forte, si sentie, qu'il en fut ému. Tous les souvenirs de son enfance revinrent à sa mémoire. Son amour pour sa cousine se réveilla avec une force invincible, et l'assurance qu'il avait du bonheur d'Annette lui rendit Argot odieux au dernier degré de la haine. Le lendemain de son arrivée, Annette alla promener avec lui dans le parc après le dîner. Elle voulait lui montrer, dans une espèce de vallée suisse, des vaches, des taureaux et une laiterie bâtie en marbre et presque semblable à celle du parc de Rambouillet. Ils parvinrent ensemble au bas d'une petite montagne factice et s'assirent sur un banc en face de la prairie et à côté d'un massif d'arbres étrangers.
« Mon cousin, dit Annette, depuis ce matin vos regards semblent un voile qui cache quelques desseins. Je n'ai pas voulu vous parler de leur expression devant monsieur de Durantal, mais dites-moi, n'avez-vous rien à vous reprocher ? Vous connaissez mon amitié pour vous, mon indulgence. J'ai pris le prétexte de vous montrer ma vacherie, qui est pour ce pays une chose curieuse, afin de vous parler de vous. »
« Ma cousine, dit Charles avec une profonde émotion, je vous aime. Que dis-je, je vous adore toujours. Et toutes les fois que je vous verrai, je serai, comme vous le remarquez, combattu entre deux passions effroyables. Mon amour est la haine la plus violente pour celui qui m'a tout enlevé.
Quel discours ! Oh, Charles, est-ce vous qui parlez ainsi ? Oubliez-vous qui je suis ?
Je vois tout, mais ma passion est si forte que je ne vois plus d'obstacles et que je sens qu'il faut que je quitte ce pays. Je le quitterai, Annette. J'ai demandé être changée de place. J'espère être nommé avocat général bien loin, dans le nord de la France. Et là, je serai délivré de l'effroyable supplice de voir toujours uni et triomphant l'objet de ma haine et celui d'un amour sans bornes. »
À ce moment, l'on entendit du bruit dans le feuillage, et Annette, apercevant son mari, tomba de frayeur.
« Vous étiez là ? »
dit Charles, épouvanté d'être arrêté dans ses desseins.
J'y étais, j'ai entendu, et je vous pardonne. »
Il tenait Annette dans ses bras et lui prodiguait des baisers qui la firent revenir, lorsque Charles, se retournant, jeta un cri affreux. Un taureau, comme enragé, se précipitait sur eux, et rien ne pouvait les sauver de sa fureur, car la singulière scène qui venait de se passer ne leur avait pas permis de s'apercevoir de cet ennemi furibond qui n'était plus qu'à 20 pas d'eux et que le châle rouge d'Annette excitait encore. Charles et sa cousine jetèrent ensemble un cri terrible et la peur les glaça tellement qu'ils restèrent immobiles. Tout à coup, Argot, défaisant sa bague, en tira une épingle très courte et, se plaçant entre le taureau et Annette, il reçut l'animal de côté et soutint son choc avec une vigueur étonnante. La tête de l'animal ainsi heurtée porta sur le banc et le fit sauter. Mais aussitôt qu'Argot eut effleuré la peau de l'animal furieux, ce terrible ennemi tomba mort. L'étonnement d'Annette et de son cousin était égal à leur terreur, et ce n'est pas peu dire. Cette scène leur fut comme un songe, et ils regardaient le taureau mort et Argot tour à tour. Le mugissement de l'animal en tombant avait été horrible,
et il leur semblait encore l'entendre. Annette tendait ses mains pour s'assurer que son mari vécût. Mais, comme il tenait sa fatale épingle, il repoussa rudement sa femme de la main qui lui restait libre.
« Oh, mon ami !» lui dit-elle en pleurant.
« Mais mon ange, veux-tu que je te tue ?
J'aime mieux la mort qu'un pareil geste, » dit-elle.
« Et par quel miracle ? » dit Charles. « Nous avez-vous sauvé la vie ?»«
Cette épingle, » répondit Argo, « est trempée dans le plus subtil poison de la terre, et il n'y a que les sauvages qui le connaissent. Ce n'est même pas une épingle, c'est une arête de poisson. »
Charles serra la main d'Argo avec reconnaissance et lui dit d'un air attendri « Je n'oublierai jamais que vous m'avez sauvé la vie, et je m'empresserai de le reconnaître. » Au bout d'une heure, Charles était parti pour Valence, après avoir montré la plus vive agitation. Et Annette resta dans une incertitude cruelle, car elle n'avait pas pu savoir de Charles la cause d'un départ aussi précipité après une telle phrase.